Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Un nouveau journal avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et cette question, quels sont les responsables de la tragédie à Beyrouth ?
Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres, la colère monte. Jamais ce nitrate d'ammonium n'aurait dû se retrouver dans un hangar désaffecté depuis autant d'années. C'est dans un paysage apocalyptique désormais que la solidarité se met en place. De très très nombreux Libanais se retrouvent sans domicile. Cette catastrophe rouvre les plaies de ceux qui ont vécu la même chose à Toulouse en 2001. Le cauchemar AZF ressurgit. Plusieurs départs de feu simultanés, c'est rarement un hasard. Près de Marseille, le gigantesque incendie désormais maîtrisé a ravagé le secteur de Martigues. Les habitants sont écœurés, vous l'entendrez. Merci de bien vouloir rendre votre trop perçu, même si vous ne l'aviez pas vu. Les salariés des ex-pages jaunes doivent à la direction quelques centaines d'euros, parfois beaucoup, beaucoup plus. Tout ça à cause d'un bug informatique.
RTL Matin.
Alors on ne peut rien contre les catastrophes naturelles, en revanche l'explosion à Beyrouth aurait pu être évitée.
Bien sûr, il est facile de refaire l'histoire, mais quand même, alors que le dernier bilan fait état de 113 morts, 4000 blessés et 300 000 sans-abri, la colère prend le pas sur la stupeur. Ces tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un hangar sur le port n'avaient rien à faire là. Ce n'est pas faute d'avoir alerté les autorités, le directeur général des douanes le répète. Comme son prédécesseur, il a prévenu du danger. Et pourtant, écoutez Badri Daher, joint par Clarence Rodriguez pour RTL.
Ça fait 6 lettres jusqu'à maintenant. Ce n'est pas mon travail d'alerter l'autorité judiciaire. Mais parce qu'il y a un cas extraordinaire, il y a une substance qui est dangereuse. C'est pourquoi j'ai tiré cette alerte à l'autorité judiciaire. Dans le but de réexporter ou de prendre la décision de la réexportation de cette substance dangereuse qui est au port de Beyrouth.
Et donc vous avez envoyé toutes ces lettres et vous n'avez jamais reçu de réponse.
Malheureusement, je n'ai pas une réponse officielle.
Voilà, aucune réponse officielle, une situation qui perdure et donc cette catastrophe. Le Premier ministre Hassan Diab a promis que les responsables rendraient des comptes. L'enquête ne fait que commencer, Pierre-Julien. Il faut aussi comprendre comment de tels produits ont pu se retrouver stockés aussi longtemps sans surveillance.
Eh bien, il faut remonter en novembre 2013. Un cargo, le Rosus, battant pavillon moldave, attire l'attention des autorités portuaires lors d'une escale non prévue à Beyrouth. Suite à une panne technique, le bateau parti de Batoumi sur la mer Noire filait vers Beira au Mozambique. L'inspection révèle la présence dans ces cales des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. L'affaire prend un tour judiciaire sur fond de banqueroute, équipage contraint de rester à bord, puis libéré un an plus tard avec à la clé le débarquement de la fameuse cargaison. Elle est donc stockée dans l'entrepôt, le hangar numéro 12, celui qui sera pulvérisé, mais cette véritable méga-bombe à retardement ne donne pas lieu à des mesures de sécurité particulières, ni panneaux, ni surveillance continue, comme si personne ne s'en inquiétait.
Pierre-Julien du service étranger de RTL, de très nombreux pays ont envoyé de l'aide matérielle sur place, des équipes de secouristes également. Il faut aller vite, bien sûr, pour tenter de dégager d'éventuels survivants coincés sous les décombres. Malgré la douleur, le choc, une immense solidarité entre habitants se met en place, Alice Moreno.
Oui, à seulement quelques centaines de mètres du lieu de l'explosion, un commerçant observe sa boutique soufflée par le blast.
Les portes blindées étaient soufflées et qu'elles sont tombées à l'intérieur du magasin, avec naturellement toutes les vitres brisées, les vitrines.
À l'intérieur du commerce qui menace de s'écrouler, une petite équipe de 7 jeunes hommes s'active, déblaye les gravats, tient des morceaux de plafond à bout de bras. Yarish est venu spécialement à Beyrouth pour aider.
On n'a pas pu rester à la maison après avoir vu tout ce qui se passe ici. Tous les gens ont essayé d'aider le plus tôt possible.
Vous nettoyez les débris ?
Oui.
Il y a beaucoup.
Tout est par terre, tout est détruit. Les immeubles sont par terre. C'est une catastrophe qui a passé.
Un des garçons quitte l'équipe pour faire un tour dans les appartements voisins.
Il y a quelques gens qui sont encore dans leur, coincés dans leur maison, à évacuer surtout parce qu'il y a plein d'immeubles qui sont en train de tomber encore.
Ils espèrent désormais une aide rapide du gouvernement et à l'échelle internationale.
Le reportage de notre envoyé spécial à Beyrouth, Alice Moreno pour RTL. Emmanuel Macron, lui, se rend sur place aujourd'hui. Il doit rencontrer son homologue Michel Aoun ainsi que le Premier ministre. 21 Français ont été blessés durant cette explosion. La mort de l'architecte Jean-Marc Bonfils, elle a été confirmée.
Emmanuel Macron sur place donc en début d'après-midi. Chapeau Monsieur le Président, salut Bernard-Henri Lévy sur Twitter. Il sera notre invité à 8h15. On lui demandera ce que peut faire la France au-delà évidemment des gestes de solidarité.
Et puis sachez que pour aider le peuple libanais, le groupe M6 avec la Fondation de France lance un appel aux dons. Vous pouvez vous rendre sur le site internet ou envoyer un chèque à l'adresse suivante, Fondation de France, Solidarité Liban, 60 509 Chantilly Cedex. Fondation de France, Solidarité Liban, 60 509 Chantilly Cedex. On vous met bien évidemment toutes ces informations sur rtl.fr.
Et ce drame dû au nitrate d'ammonium rappelle la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001.
Bien sûr que c'est un traumatisme à vie. La preuve, Pauline Miranda, gravement blessée à l'époque, revit son cauchemar depuis avant-hier. Et pourtant, ce qu'elle a vécu, c'était il y a 19 ans.
Hier, en voyant ces images, et encore là ce matin, en voyant certaines images, je revis AZF. J'étais dans ma voiture, j'étais en bordure de la rocade. Ces quelques secondes qui passent, on pense qu'on va mourir parce que j'ai vu le souffle arriver, j'ai vu les débris arriver, j'ai vu ce collège sur ma droite exploser. Et là, les scènes d'apocalypse que j'ai vues ce jour-là, on vivait Beyrouth. C'est AZF multiplié par 10, quoi. C'est parce que ce qu'il y a eu AZF, il y avait une certaine quantité, mais là, c'est multiplié par 10. Les gens, ce qu'ils ont dû endurer, c'est toute cette ville détruite, c'est effroyable, quoi. Pour moi, c'est très dur, je vous assure, c'est très dur.
Pauline Miranda, qui préside dans l'association des sinistrés du 21 septembre 2001. Elle était au micro de Patrick Hisson pour RTL. Hier soir, la tour Eiffel s'est éteinte en hommage aux victimes libanaises. Une messe a été célébrée dans le 5e arrondissement de la capitale. Et puis en Égypte, ce sont sur des pyramides que le drapeau du pays du Cèdre a été projeté.
RTL, il est 7h07, même quand le feu semble maîtriser, une extrême vigilance s'impose.
Hier, près de Marseille, il y a eu une reprise de l'incendie dans l'après-midi. Les 1400 pompiers sur le pont depuis la veille ont dû à nouveau intervenir. En tout, les flammes ont détruit plus de 1000 hectares dans le secteur de Martigues, Carry-le-Rouet, Port-de-Bouc ou encore Gignac. De nombreux campings ont été réduits en cendres. D'ailleurs, leurs occupants ont été évacués dans la nuit de mardi à mercredi, tout comme beaucoup d'habitants. Dominique, justement, a bien cru que sa maison allait y passer. Il habite Martigues dans le quartier de la Couronne, écoutez.
Le feu est arrivé à une vitesse folle, ça a duré 30 secondes, le temps de réagir, on regardait les fumées, puis d'un coup le nuage s'est embrasé. Les flammes montaient à plus de 50 mètres de hauteur, grosso modo, et on a eu juste le temps de sortir les véhicules, de partir. Chaque année, tous les 3-4 ans, il y a un feu, si c'est pas ici, c'est à la commune d'à côté, et puis chaque fois c'est le même scénario, gros mistral, à la tombée de la nuit, mais vers les 4-5 heures de l'après-midi, il y a des feux qui se déclenchent un peu partout, quoi. Je crois hier, il y a eu 4 ou 5 départs. Voilà, donc est-ce que c'est le hasard ? J'en sais rien, mais bon, ça me paraît douteux, quoi.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. 5 jours d'ITT, nouvelle agression d'un maire. Cette fois, cela s'est passé en Gironde, à Saint-Philippe-d'Aiguille, alors que l'édile demandait à des joueurs de pétanque avant-hier de faire moins de bruit sur la place du village. Il a été pris à partie par un individu alcoolisé. Roué de coups, il a porté plainte.
Qui se souvient du bottin, le fameux bottin ? L'époque est révolue et pourtant on en parle ce matin.
Ah oui, plusieurs centaines de salariés de l'entreprise Solocal, ex-page jaune, d'où le bottin, sont priés de rembourser un trop perçu de salaire suite à des erreurs de logiciel informatique. Ils l'ont appris juste avant les vacances et par mail, Arnaud Touche.
Oui, selon les syndicats, plus de 800 salariés ont été informés d'une erreur de paie qui durait depuis le mois de mars l'année dernière. Frédéric Gallois, délégué syndical force ouvrière chez Solocal, n'en revient toujours pas.
Personne ne pouvait s'apercevoir qu'ils avaient trop perçu, puisque les commerciaux ils reçoivent des parties variables, c'est-à-dire des commissions différentes d'un mois sur l'autre. Donc en fait, personne ne pouvait savoir qu'il avait trop perçu d'argent. Du coup, aujourd'hui, c'est forcément avant les vacances. Quand vous dites à des gens, bah, tu vas rembourser 300, 1000 ou 1500, voire 8000 euros pour une ou deux personnes, ça va être hyper compliqué là maintenant de pouvoir rembourser du jour au lendemain.
La direction de l'entreprise a proposé un échelonnement des paiements pour les commerciaux concernés. Mais pour Frédéric Gallois, ce n'est pas la bonne méthode vu le contexte économique. C'est à l'entreprise d'assumer ses responsabilités.
C'est une erreur, ben, ma foi, qu'elle paye son erreur. Et c'est pas aux salariés de payer les erreurs de la direction, encore une fois. Qu'on regarde un peu là où ça a été défaillant, parce que le but, c'est que ça ne se reproduise pas. Hein. Il n'est pas possible qu'on s'aperçoive des erreurs comme ça sur plus d'un an en arrière.
Selon les syndicats, il s'agirait d'une erreur d'un logiciel de paie qui aurait surévalué les commissions des commerciaux du groupe pendant plusieurs mois.
Arnaud Touche pour RTL. Comme leurs aînés, ils ont été au front au plus fort de la crise du Covid et pourtant, des centaines d'élèves infirmiers n'ont toujours pas été rémunérés pour leurs mois de stage. Ils ont pallié au manque de personnel, accepté de ne pas être beaucoup payés, mais pour certains, la situation devient problématique. De plus en plus de villes rendent obligatoire le port du masque en extérieur dans certains quartiers fréquentés. Dernière en date à avoir pris cette décision, Nancy et Tours. Et puis en foot, au PSG, quand ça veut pas, ça veut pas. L'infirmerie du club accueille un autre joueur. Après Mbappé blessé à la cheville, Marco Verratti pourrait bien être forfait lors du quart de finale de la Ligue des Champions face à Bergame. C'est le 12 août prochain, autant dire demain. Grosse, grosse incertitude. Le milieu italien a reçu un choc au mollet lors de l'entraînement hier.
Les courses, elles ont lieu à Enghien-Soisy. J'ai bien dit Enghien, Agnès.
Les pronostics sont signés Dominique Cordier. Les voici le 16, le 13, le 3, le 15, le 6, le 9, le 5, le 14. Dernière minute, le 3, Diane des Loyaux.
Vous aviez dit Enghien tout à l'heure.
Ce n'est pas moi, je me suis rectifié.
Ah, c'est pas vous, pardon.
Non, mais c'est pas grave, si vous vouliez me tacler à l'antenne, c'était
pardon,
très gentil.
Pardon, mais c'est agréable. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure dans les couloirs, voyez.
Mais bravo, mais monsieur, ne vérifie pas ses infos,
d'accord,
c'est bien.
D'accord, très bien. 7h12 sur RTL. Merci Agnès Bonfillon.